Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Oana Favennec. Bonjour Oana.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à tous. Le projet de loi de bioéthique est présenté en Conseil des ministres. La PMA pour toutes les femmes, un projet de société qui divise encore, mais moins que le mariage pour tous. Un projet de société qui a aussi tendance à éclipser les autres changements prévus dans ce texte. Le ministère de la Culture est-il moribond? C'est l'avis du politologue Claude Patria, nous l'entendrons, alors que le ministère de la Culture fête ses 60 ans aujourd'hui. Après les Panama Papers, voici les Mauritius Leaks. Le consortium international des journalistes d'investigation a travaillé sur l'île Maurice, révélant des pratiques d'évasion et d'optimisation fiscale. Au sommaire de la grande table d'été, Maëlys.
Aujourd'hui, on va parler du documentaire de l'auteur-chanteur Daniel Darc, Pieces of My Life, de Marc Dufaux et Thierry Villeneuve. Puis nous ferons le portrait de la photographe Axel de Russet.
Le projet de loi de bioéthique est sur la table du Conseil des ministres. Un texte long fourni avec une mesure phare attendue par de nombreuses femmes. L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules. Promesse du candidat Macron. Il y a 6 ans, la loi autorisant les couples de même sexe à se marier avait provoqué une levée de boucliers parmi les Français les plus conservateurs. Aujourd'hui, la PMA pour toutes les femmes devrait moins polariser le débat, Stéphane Robert.
La société a évolué, veut croire le pouvoir exécutif. Il y aura bien quelques voix pour pousser les hauts cris. Mais il y a peu de risques que la PMA génère une mobilisation et une hystérisation du débat public, comme au temps du mariage pour tous. D'abord parce que l'opinion a évolué sur cette question. 60% des Français aujourd'hui disent y être favorables. L'adoption de la loi qui autorise le mariage des couples homosexuels et le fait qu'elle est en vigueur depuis maintenant 6 ans ont fait changer les mentalités, générant une plus grande permissivité vis-à-vis de la procréation médicalement assistée. De la même manière que le vote du PACS en 1999 avait préparé les esprits à l'adoption du mariage pour tous 15 ans plus tard. C'est ce qui fait dire aujourd'hui à un grand nombre de conseillers et de ministres que la population française est prête. Par ailleurs, les relations entre Emmanuel Macron et la droite catholique et conservatrice sont beaucoup moins tendues que du temps de François Hollande. À l'époque, le débat s'était inscrit dans le cadre d'un clivage droite-gauche encore très fort, avec des conservateurs qui avaient le sentiment de se faire humilier par les progressistes. Aujourd'hui, ce clivage est moins prégnant. D'ailleurs, une partie de la droite dite conservatrice a voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle et aux européennes. Et puis le chef de l'État a su envoyer des signaux amicaux, notamment à l'occasion de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour toutes ces raisons, l'opposition à la révision des lois bioéthiques à l'automne et notamment à l'extension de la PMA devrait être nettement moins virulente qu'il y a 7 ans.
Stéphane Robert. Ce matin, le Rassemblement national, par la voix de son eurodéputé Jordan Bardella, demandait un référendum sur le sujet au nom, je cite, du droit de l'enfant à avoir un père et une mère. Mais le texte du projet de loi de bioéthique ne se résume pas à une mesure. D'autres changements sont en programme et vous vous êtes penché sur ce texte, Antoine Marette.
Effectivement, la PMA, pour toute rebaptisée par ses opposants la PMA sans père, éclipse toutes les autres réformes et pourtant ce texte long de 32 articles décline de nombreuses mesures moins visibles, car moins sociétales, plus médicales. La recherche sur l'embryon, par exemple, elle est autorisée depuis 2013, mais strictement encadrée. Le texte veut faire évoluer ce cadre en différenciant les cellules souches embryonnaires, celles qui sont issues des premières divisions de l'œuf fécondé, de l'embryon. Le projet de loi veut faciliter les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines capables de réparer ou de remplacer les tissus de l'organisme, mais pas celles sur l'embryon qui posent des questions éthiques plus lourdes. Autre sujet important abordé, l'autoconservation des ovocytes pour mener à bien une grossesse dans le futur. Elle est actuellement très encadrée en France, uniquement pour raisons médicales, comme par exemple un cancer qui pourrait provoquer une stérilité ou en cas de don d'ovocytes. Le texte propose d'autoriser les femmes à conserver leurs ovocytes en prévision d'éventuels problèmes de fertilité dus à l'âge, tout en instaurant une limite d'âge. Le projet de loi envisage également une réforme du don de rein croisé. Les greffes de rein sont possibles à partir d'un donneur vivant qui ne peut donner qu'à un de ses proches. Et si une paire de donneurs-receveurs est incompatible, on peut rechercher une autre paire de donneurs-receveurs qui ne l'est pas non plus pour envisager un don croisé. Pour le moment, le don croisé ne peut se faire qu'à 2 paires de donneurs-receveurs. Pour pallier le manque de donneurs, le texte propose de monter jusqu'à 4 paires de donneurs-receveurs.
Antoine Marette. Le procureur de la République de Nice s'explique sur l'affaire Geneviève Leguet, la militante de 73 ans gravement blessée lors d'une manifestation de gilets jaunes le 23 mars dernier. Jean-Michel Prêtre a expliqué à sa hiérarchie avoir d'abord dédouané les forces de l'ordre pour ne pas mettre Emmanuel Macron dans l'embarras avec des divergences trop importantes. Le nouveau plan de reprise d'Ascoval validé. Le tribunal de commerce de Strasbourg entérine la requête de modification du plan. Vendredi, Olympus, repreneur de l'acierie nordiste, avait dû revoir sa copie après notamment la mise en faillite de sa maison mère British Steel par les autorités britanniques. Le flacon est resté, mais l'ivresse est-elle toujours là? Le ministère de la Culture célèbre ses 60 ans. Il y a 10 ans, l'ancien ministre Jean-Jacques Ayagon posait la question de l'existence de l'institution créée par André Malraux. Aujourd'hui, la question se pose avec encore plus de force. Observant un ministère décentralisé à 80%, qui diminue ses aides à la culture tout en contrôlant chaque euro versé et qui court après les dotations privées, Claude Patria, politologue émérite à l'Université de Bourgogne, a tranché, ce ministère a perdu son âme et sa raison d'être. Claude Patria.
On a atteint exactement les antipodes du projet de Malraux. Vous savez, je cite le discours le plus important de Malraux, qui est celui qu'il a fait pour l'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens en 1966, dans lequel il dit que l'objectif de son ministère, c'est de résister aux industries culturelles, aux machines du rêve, pour ne pas que l'homme soit dévoré par ses rêves. Parce que les industries culturelles, elles fonctionnent sur la base de la vieille recette, du sexe, de l'argent et de la mort. Et elles sont là pour se faire de l'argent. Et elles fonctionnent sur le plaisir immédiat et la consommation. Et son ministère était là pour protéger l'art, qui pour lui est le ferment de l'humanité, hein, puisque c'est ce par quoi l'homme marque son empreinte et donne du sens à un projet collectif.
Et aujourd'hui, justement?
On en est à l'inverse de ça. Si vous voulez savoir l'anti-Malraux, eh ben vous prenez le pass culture. Parce que le pass culture, c'est strictement de la consommation culturelle. C'est un ministère qui court derrière les industries culturelles. C'est un échec de la démocratisation culturelle complète.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour la société?
Ça veut dire que ça fait des gilets jaunes. Si vous voulez, actuellement, il y a une misère culturelle qui est considérable. Il y a un abandon des grandes valeurs culturelles. Puis vous avez un triomphe de prise de position sommaire. Il n'y a plus du tout l'ambition de s'élever au-dessus de... Même si c'est un peu élitiste, c'est ce que je dis, mais c'est quand même ça, là, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à sa condition.
Claude Patria avec Cécile de Kervasdoué. En ce 60e anniversaire, les fédérations du spectacle réunies en intersyndicale ont envoyé une lettre au ministère de la Culture intitulée « 60 ans et l'âge de mourir ?» point d'interrogation. Ils reprochent au ministère de vouloir déconcentrer encore ses activités et surtout de privatiser les politiques culturelles avec cette idée que la culture doit être rentable. Les adieux à la reine de Theresa May. La première ministre britannique tire sa révérence aujourd'hui, cédant sa place à Boris Johnson, élu hier par les conservateurs. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Le dernier tour de piste de Theresa May commencera donc par le Parlement.
Absolument, elle est attendue dans une heure au Parlement, Theresa May, pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement du mercredi, séance qui va clore 3 ans de bras de fer avec les députés, des tentatives à répétition pour la Première ministre de faire passer son texte sur le Brexit sans réussir à sortir de l'impasse. Elle a passé au total 1106 jours au pouvoir, c'est un tout petit peu plus que Gordon Brown, mais ça reste parmi les mandats les plus courts du Royaume-Uni. La Première ministre va aussi prononcer un discours sur le perron de Downing Street en mettant l'accent sur son bilan, fin de l'austérité, équilibre budgétaire, construction de logements. Et puis à 14h, heure française, elle ira remettre sa démission à la reine. Boris Johnson prendra le relais. Il ne donnera pas les noms des ministres qui vont travailler avec lui avant le milieu d'après-midi, mais ses proches parlent d'une équipe avec le plus de diversité ethnique possible et une parité homme-femme. En revanche, pas de concession sur la ligne à suivre pour le Brexit. Les noms qui circulent pour l'instant, celui de Priti Patel, David Davis ou Jacob Rees-Mogg, sont tous ceux d'eurosceptiques convaincu, départ programmé donc de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec une sortie de l'Union européenne rapidement. Si on fait le total, ils sont 22 dans le gouvernement actuel. Ça risque de faire du changement.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Sujet du moment auquel devra se confronter Boris Johnson, la sécurité dans le détroit d'Ormuz. À la demande des Britanniques, une force navale européenne est en train de se dessiner pour protéger ce lieu de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Demande déclenchée notamment par l'arraisonnement d'un pétrolier battant pavillon britannique vendredi par les gardiens de la révolution iranien. Les pays de l'Union européenne, France et Allemagne en tête, avaient condamné l'action de l'Iran. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Malgré le Brexit, ce sont donc les Britanniques qui réclament une opération européenne.
Oui, le dispositif naval britannique est déjà en cours de déploiement dans le golfe Persique pour renforcer la frégate HMS Pontrose qui se trouvait vendredi à une heure du pétrolier Stena Impero lors de son arraisonnement. La frégate de défense aérienne HMS Duncan est déjà en renfort. Elle pourrait être rejointe par une autre, le HMS Kent. Du côté des Européens, on ignore encore quel navire serait affecté à la mission navale en préparation, même si certains pays ont déjà participé à la protection du détroit d'Ormuz, comme par exemple la France avec la frégate Lamotte Piquet en 2012. La France veut en tout cas répondre présent, et l'Allemagne ainsi que les Pays-Bas et la Norvège ont été approchés. Les règles d'engagement, c'est-à-dire les contours précis de la mission, sont en cours d'élaboration et devraient se limiter à la protection des navires. Le Royaume-Uni n'a pas précisé s'il comptait utiliser les structures militaires européennes existantes, mais pour les Britanniques, la mission doit clairement être identifiée comme battant pavillon européen et surtout pas celui de l'OTAN. La volonté politique expresse, c'est de ne pas paraître s'associer aux États-Unis. L'objectif étant de ne pas torpiller les efforts diplomatiques européens pour maintenir à flot l'accord sur le nucléaire iranien.
Pierre Benazet à Bruxelles. Le Luxembourg, les îles Caïmans, Jersey, la liste des paradis fiscaux est longue. Et après le Panama, le consortium international des journalistes d'investigation publié hier une enquête sur l'île Maurice. Basée sur 200 000 documents, l'enquête met au jour des pratiques d'évasion et d'optimisation fiscale de diverses sociétés au détriment du continent africain. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Les États africains perdraient autour de 50 milliards de dollars par an selon l'OCDE.
Oui, 50 milliards de dollars, c'est une estimation de ce que l'optimisation en général fait perdre à l'Afrique en recettes fiscales, pas seulement celles qui passent par l'île Maurice. Alors cette optimisation est légale. Le cabinet d'avocats international d'où proviennent les 200 000 documents étudiés par le consortium d'investigation a pignon sur rue dans le monde entier. Ces activités ne sont nullement menacées par ces révélations. De la même manière, le cabinet Appleby, dont les documents ont fuité pour les Paradise Papers, va très bien et il a d'ailleurs un bureau à l'île Maurice. Alors, ce que confirme l'enquête de l'ICIJ, c'est que l'île Maurice est un peu à l'Afrique ce que le Luxembourg et les Pays-Bas sont à l'Europe, c'est-à-dire un lieu où l'on peut immatriculer sa société même si on n'y a pas d'activité réelle, que l'on peut y rapatrier ses profits sans qu'il soit beaucoup taxé sur place, de 0 à 3%, profits qui échappent donc au pays où ils ont été réalisés grâce à des accords fiscaux passés entre l'île Maurice et des États africains pour éviter la double imposition. Alors, l'ICIJ donne des noms d'entreprises qui ont leur siège à Maurice pour des raisons fiscales. Il y a notamment le fonds d'investissement de l'ancienne star de l'humanitaire Bob Geldof, pour qui, s'il y a un problème avec ces accords d'imposition, eh bien c'est le problème des États et pas des entreprises. Plus limite, en revanche, l'opacité que permet l'île Maurice pour certaines transactions, une opacité reconnue, dénoncée régulièrement par des ONG. L'île Maurice est d'ailleurs sur la liste grise des paradis fiscaux de l'Union européenne depuis 18 mois, sans aucune conséquence notable sur son activité extractive des recettes fiscales des pays voisins.
Marie Viennot. En République démocratique du Congo, 12 personnes ont été tuées hier lors d'une attaque d'insurgés islamistes. Elle a eu lieu dans l'est du pays, une région dans laquelle sévit une épidémie d'Ebola. La semaine dernière, l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale après un premier cas déclaré à Goma, ville d'un million d'habitants. Les humanitaires tentent de faire de la prévention auprès des populations, mais leur tâche est compliquée par les conflits armés. Thibaut Saint-Sébastien est chef de délégation de la Croix-Rouge française en RDC.
Nous sommes dans une situation où nous avons de multiples foyers, des problèmes de réticence qui persistent et du coup une réponse à l'épidémie qui est de plus en plus difficile. Comme ça a été souvent dit, et c'est une réalité, il y a la question des rumeurs. Les personnes ne vont pas forcément croire en la maladie ou vont fonctionner sur des histoires de complots en tout genre. Et on peut encore retrouver des gens qui ne croient pas en la maladie. Donc ça, c'est une première raison des réticences. La deuxième, il faut juste être simple et lucide sur la situation en Nord-Kivu et en Ituri. C'est une zone qui souffre depuis des décennies de violences de groupes armés, de nombreuses maladies, des maladies qui tuent silencieusement, à savoir que quand même la rougeole aujourd'hui en RDC cette année a quand même fait plus de décès que Ebola. Et donc toutes ces personnes-là, quand ils sont face à ce déploiement de moyens inattendu pour une maladie qu'ils ne connaissaient pas, forcément ils se posent des questions et ils vont nous dire qu'on n'a pas attendu Ebola pour mourir.
Thibaut Saint-Sébastien, chef de délégation de la Croix-Rouge française en RDC, joint par Capucine Jaffet. En France, 80 départements sont en vigilance orange à cause de la canicule. Seule la pointe de la Bretagne et la Méditerranée sont épargnées par les fortes chaleurs. Cet après-midi, il fera 22 à 25 degrés sur les rivages de la Manche et plus de 30 degrés partout ailleurs, jusqu'à 40 degrés dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en Provence. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal de la rédaction.